www.radioscoop.com.
Il est 17h, bienvenue sur Radio Orient, votre journal. Nouvelle journée dans la fournaise. 72 départements placés en vigilance rouge. C'est du jamais vu. Parmi les températures les plus élevées, 43,2 degrés à Beaulieu sur l'Ayon dans la Maine-et-Loire ou encore 42 degrés à Château-Meillant dans le Cher. On y revient en début de journal. Les députés examinent pour la troisième et dernière fois l'examen de la loi sur l'aide à mourir. Le député de la droite républicaine, Philippe Gosselin, nous dira pourquoi il votera contre ce texte. L'enclave palestinienne en proie à une grave crise humanitaire. Israël et le Hamas accusent presque quotidiennement de violer le cessez-le-feu dans le territoire dévasté. Alors, quelle future gouvernance pour la bande de Gaza? Élément de réponse dans votre journal. Et vous vous en doutez, sur Radio Orient, on va commencer ce journal par cette situation totalement exceptionnelle. On manque même de superlatifs, il faut le dire, pour qualifier cette canicule. La vague de chaleur continue de déferler dans tout le pays. Clara Dubanché, chaque jour, on bat des records.
Effectivement, Wallis, les records continuent d'être battus sur l'ensemble du territoire. 42 degrés à Rouen, en Seine-Maritime, 42,3 à Bégard, dans les Landes, ou encore 41,9 degrés à Leblanc, dans l'Indre. Mais la situation continue d'évoluer, et même si la canicule persiste, elle commence à perdre du terrain. On constate une légère baisse du nombre de départements prévus en vigilance rouge, canicule demain, 61 contre 72 aujourd'hui, et 25 départements seront en vigilance orange. L'air le plus chaud va progressivement se déplacer vers l'est du pays, alors que dans l'ouest de la France, sur l'Atlantique, 12 départements se préparent à une vigilance orange orage. En Bretagne et dans le sud-ouest notamment, même si cela représente un signe d'espoir pour un retour vers des températures plus basses, cela ne signifie pas pour autant une baisse considérable du thermomètre. Ces zones pourront tout de même s'attendre à un air moins chaud, selon Météo France. Contrairement à la nuit qui s'annonce pour les Franciliens et dans l'est de la France, notamment dans les villes. Le phénomène d'îlots de chaleur urbain en est en partie responsable. La chaleur stockée dans les sols et dans les bas de journée ne permet pas à l'air de refroidir pendant la nuit et la chaleur est alors piégée dans la ville comme sous un dôme.
Et Clara, est-ce qu'un plan a été déployé en raison justement de l'urgence de la situation?
Oui, dès ce matin, le Premier ministre a décidé d'activer le plan Orsan au niveau 3, le niveau le plus élevé de mobilisation sanitaire. L'objectif est bien sûr de permettre d'organiser la prise en charge des victimes des fortes chaleurs et de renforcer la coordination entre les hôpitaux, mais surtout anticiper dans les prochains jours un afflux de patients dans les services d'urgence, car rappelons-le, les effets de la canicule peuvent se déclarer jusqu'à plusieurs jours après les fortes températures.
Merci beaucoup Clara Dubanché. Et toujours avec cette actualité forcément qui fait la une aujourd'hui, le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geoffrey, a annoncé chez nos confrères de France Télévisions la fermeture de 3500 écoles sur l'ensemble du territoire. 10 000 autres établissements fonctionnent avec des aménagements d'horaires pour protéger les élèves de la canicule exceptionnelle qui touche le pays. À noter également qu'exceptionnellement, les voyageurs qui souhaitent reporter ou annuler leur voyage pour les TGV Inouï ou Ouigo peuvent le faire gratuitement. C'est ce qu'a indiqué tout à l'heure le PDG de la SNCF Voyageurs, Christophe Fanichet. La canicule et ses conséquences. Un enfant de 3 ans a été retrouvé mort dans une voiture du côté de Saint-Gratien. C'est dans le Val d'Oise, en pleine vague de chaleur. Les secours ont été appelés vers 19h. Après la découverte de l'enfant, un arrêt cardio-respiratoire dans le véhicule familial. Et un autre décès, potentiellement lié à la chaleur, s'est produit le même jour à Saint-Gratien également. Il s'agit d'un homme âgé de 79 ans retrouvé en arrêt cardio-respiratoire à son domicile. Vers 22h30, il n'a pas pu être ranimé. Et alors que la France connaît une nouvelle vague de chaleur, les souvenirs de l'été 2003 ressurgissent inévitablement. Cette année-là, une canicule exceptionnelle avait frappé le pays, provoquant la mort de près de 22 000 personnes, selon les autorités sanitaires. Il y a 23 ans, Patrick Peloux, alors médecin urgentiste, a alerté sur cette tragédie. Il s'était retrouvé en première ligne durant cet été dramatique. Vous allez l'entendre, on lui a posé cette question. Pourquoi cette fournaise en France est plus dangereuse que dans les pays du Sud, notamment dans le Maghreb, bref, dans les pays qui ont l'habitude des fortes chaleurs. Je vous propose de l'écouter.
Votre question est très judicieuse parce que tout est là. D'abord, je vous rappelle ce qu'avait dit notamment le roi du Maroc, Hassan II, quand il avait dit, vous savez, chez nous, il n'y aura jamais de maison de retraite parce que les personnes âgées restent avec la famille. Voilà, nous sommes un pays où on nous a vissé le cerveau en disant, quand une personne est âgée et vieille, elle va à l'EHPAD. Bon, ça a créé toute une économie, hein, que d'ailleurs les grands milliardaires ont appelé l'or gris, hein, n'est-ce pas ? Donc, c'est n'importe quoi. Mais surtout, vous avez la culture dans les pays d'Afrique du Nord, la culture de la chaleur. Donc, ils savent comment faire une maison avec des courants d'air. Ils savent comment mettre des gros murs, des petites fenêtres, des petits... Ils ont compris tout ça. Nous, on est en retard de tout. Et on a eu, bien sûr, cette culture de « bah, il fait chaud, on met la clim », ce qui est complètement ridicule, et qui va entraîner une surconsommation d'énergie, et donc qui va engendrer le réchauffement climatique. Vous voyez, c'est là où vous apercevez qu'on avait une équation... On a raté un truc. Le réchauffement climatique est maintenant inéluctable. Et voilà, et vous savez, là, on est le 24 juin. Personne ne peut vous dire très précisément comment ça va se passer au cours des trois prochains mois. Ça va être très compliqué.
Est-ce que la France devrait engager une forme de coopération avec ces pays pour trouver des solutions ensemble ?
Je pense que, notamment la coopération avec la culture architecturale et anthropologique des mondes de l'Afrique du Nord, elle serait nécessaire, bien sûr. Bien sûr, j'ose espérer que beaucoup de bâtisseurs y ont réfléchi. Mais je pense qu'ils n'ont pas réussi à aller très loin dans ces analyses. En tout cas, on ne le voit pas beaucoup sur le terrain, bien sûr.
C'était le docteur Patrick Peloux qui, je le rappelle, préside l'Association des médecins urgentistes de France, au micro de François-Xavier de Calonne. Et puis on vous le rappelle évidemment, pensez absolument à vous hydrater aujourd'hui, les prochains jours. Ne faites pas d'activité sportive, restez bien à l'ombre ou bien même restez chez vous. Et prenez bien sûr des nouvelles de vos proches. À présent, l'examen de la loi sur l'aide à mourir. Les députés examinent pour la troisième fois cette proposition de loi. C'est loin d'être un long fleuve tranquille, il faut le dire. Liberté individuelle face à la mort, protection des personnes vulnérables, rôle des soignants. Les discussions soulèvent des questions majeures. Ce texte fait l'unanimité contre lui au sein des trois religions monothéistes, l'islam, le christianisme et le judaïsme. Il autorise le recours au suicide assisté ou l'euthanasie sous certaines conditions. Le député de la droite républicaine, Philippe Gosselin, nous explique pourquoi il s'oppose à ce qui est présenté comme un nouveau droit pour les partisans du texte. On l'écoute.
Quand on regarde justement l'ensemble de ce texte, on a beau nous dire qu'il est équilibré, en réalité il est équilibré, je ne sais pas par qui et comment et de quelle façon, parce qu'aujourd'hui le fait est qu'on pourra, si le texte est voté la semaine prochaine et puis la clôture se ferait vers la mi-juillet définitive, on pourra en France effectivement avoir un suicide assisté, on pourra avoir l'euthanasie, qui sera une solution pour la fin de vie. Ce n'est pas du tout ce que nous souhaitons. Donc il y a une vraie évolution et je trouve qu'on n'a pas mis suffisamment en avant les soins palliatifs, même si il y a, il faut que les auditeurs aient bien en tête, un autre texte qui concerne plus spécifiquement les soins palliatifs, qui lui a déjà été voté précédemment de façon unanime, donc ça c'est une bonne nouvelle, mais on estime qu'en réalité... Compte tenu de l'absence de soins palliatifs en France, en tout cas de leur insuffisance, parce que parler d'absence est un peu fort, mais en tout cas de l'insuffisance dans nombre de départements et de structures et d'établissements, il importait pour nous qu'on puisse d'abord porter au maximum le développement des soins palliatifs et qu'on examine en un second temps, si l'on peut dire, cette aide à mourir telle que certains veulent l'envisager. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est évidemment un regret. Tout ça, et vous l'avez dit dans votre introduction, concerne aussi l'interdit de la mort. Et on considère, nous, que cette vision de la société n'a rien à voir avec le soin. Parce que pour les protagonistes et les fervents défenseurs de ce texte sur la fin de vie, il s'agit finalement d'apporter un soin particulier. Mais non, nous on ne veut pas que donner la mort soit assimilé à un soin. C'est autre chose. On brave l'interdit de la mort. Ce n'est pas le serment d'Hippocrate. Bien sûr, il y a un certain nombre de souffrances qui peuvent être insupportables. Et c'est jamais tout blanc, tout noir. Hein. Vous savez bien que, en réalité, et je crois que vous l'avez souligné aussi dans votre introduction, ce débat, il transcende en réalité les partis politiques.
C'était le député de la droite républicaine Philippe Gosselin au micro de François-Xavier de Calonne. Et dans le reste de l'actualité, l'enclave palestinienne en proie à une grave crise humanitaire. Israël et le Hamas s'accusent presque quotidiennement de violer le cessez-le-feu dans un territoire dévasté. Alors, cette question, quelle future gouvernance pour la bande de Gaza? Une réunion, même sur la gouvernance et la reconstruction, est prévue les 30 juin et le 1er juillet prochain. Les explications avec François-Xavier de Calonne.
Oui, c'était une annonce du gouvernement chypriote et d'un responsable du fameux Conseil de la paix voulu par Donald Trump. Le comité de technocrates palestiniens censé assurer la gestion de ce territoire sera au rendez-vous. Alors cette réunion devrait rassembler les différentes instances qui œuvrent dans le cadre du Conseil de la paix. Objectif, permettre un redémarrage et un recalibrage après 6 mois. Peu concluant, vous vous en souvenez, hein, le plan Trump visant à mettre fin à la guerre déclenchée le 7 octobre 2023 par l'attaque du Hamas sur Israël a été validé par le Conseil de sécurité de l'ONU. Il a permis l'instauration en octobre d'un cessez-le-feu précaire. La deuxième étape du plan prévoit notamment un retrait israélien progressif de Gaza, le désarmement du Hamas et le déploiement d'une force internationale de stabilisation. Alors pour le moment, rien de tout cela n'a vu le jour. Fin février, le Hamas avait dit être ouvert à la présence d'une telle force, mais sans ingérence dans les affaires intérieures de Gaza. Israël affirme de son côté contrôler désormais au moins 70% de la bande de Gaza. Dans ce contexte, Israël et le Hamas s'accusent quasiment chaque jour de violer le cessez-le-feu.
François-Xavier de Calonne, c'est la fin de votre édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 18h pour une prochaine session d'information. À tout à l'heure.